Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlerons du prophète de l'islam, de Mohammed, mais tout particulièrement de ses derniers jours, de son agonie, de sa maladie. Il y a une formule consacrée, il rejoignait le compagnon suprême. Alors, dans quelles conditions? Comment? C'est l'étude menée par le professeur, je ne féminise pas, pardon, Alawardi, l'universitaire, professeur des universités, membre associé au laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS. Encore une fois, c'est avec plaisir que je reçois Alawardi. Bonjour et bienvenue. Alors, une simple question sur l'intitulé du laboratoire d'études qui est celui du CNRS. Pourquoi le pluriel? On dit souvent qu'il y a un monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien avec ses rameaux ou ses différentes branches. Et là, on a les monothéismes. On pense à un trithéisme en réalité quand on parle des monothéismes au pluriel.
Oui, je pense aussi parce qu'il n'y a pas que la question de la foi qui est engagée quand on parle de monothéisme. Aussi, il y a toutes les déclinaisons culturelles que ces différentes formes qu'a pris le monothéisme que ce a impliqué. Donc forcément, l'emploi du pluriel est plus proche d'une sorte de précision scientifique que de la moindre prise de position ou de marquer des différences entre les croyances des trois grandes religions monothéistes précisément. Mais je pense que c'est les différences entre les textes, entre les approches, les cultures qui ont émané de ces différents monothéismes qui est prise en considération dans ce laboratoire.
Oui, alors ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, c'est une simple question comme ça incidente sur le pluriel ou le singulier qui a toujours fait débat. Revenons donc à notre sujet aujourd'hui. Alawardi, comment êtes-vous amené à vous intéresser non seulement à la figure du prophète qui a été au centre à la fois d'une légende noire pour certains et aussi adulé à un point inexpliqué, voire inexplicable, à ce que vous vous intéressiez notamment à sa maladie et à ses derniers jours?
Vous me donnez l'occasion ici de parler de la genèse, si j'ose dire, de ce livre, qui était en fait à la base un projet de lecture qui s'est transformé en projet d'écriture. J'ai remarqué, comme tous mes contemporains, que le prophète Mohammed est un personnage qui déchaîne des passions, voire des actes de démence meurtrière. Et je me suis aperçue qu'en fait, moi qui suis issue d'une culture musulmane, je connaissais peu de choses de la dimension historique de ce personnage qui a marqué l'histoire. C'était un grand méconnu. Donc j'ai commencé à faire, pour ma simple culture générale, une exploration du corpus de la tradition, les sirah, le Coran évidemment et ses différentes exégèses, pour cerner un peu le personnage.
Vous avez évoqué la sirah, c'est une sorte de curriculum vitae.
Oui, c'est en fait la géographie, si j'ose dire aussi, pour trouver un équivalent chrétien. Donc j'ai, en lisant toutes ces sources de la tradition sunnite et chiite, j'ai été interpellée par la dernière phase de sa vie, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai senti que cette période de l'histoire de la vie du prophète a été marquée par une crise politique profonde qui, à mon avis, a constitué la matrice de nombreux problèmes que nous sommes en train de vivre, que l'islam contemporain connaît encore, notamment, je pense, au conflit sunnite-chiite. Bien sûr, ce serait un anachronisme de dire que les deux mouvements étaient nés pendant l'agonie du prophète, mais on voit déjà les graines étaient semées. C'est une ambiance de fin de règne où il y a une véritable compétition autour de la succession. La question califale s'est posée même avant la mort du prophète, notamment le jour où il avait voulu dicter un testament. Et il y a un autre aspect qui m'avait interpellée dans cette période de la vie du prophète, c'est le caractère vraiment mystérieux de sa mort. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé un consensus dans les sources de la tradition, même à l'intérieur du sunnisme, il n'y a pas un consensus sur la cause réelle de sa mort. Est-ce qu'il a été empoisonné par la juive de Khaybar, Zainab bint al-Harith, ou bien est-ce qu'il est mort tout simplement, j'ai envie de dire, d'une vulgaire pleurésie? Mais en tout cas, les différentes versions divergentes, contradictoires que j'ai pu observer et relever ont laissé planer un peu l'ombre de l'assassinat politique. Et en tout cas, même si on peut pas réellement maintenant affirmer d'une manière tranchée qu'il a été assassiné, je pense qu'on a les éléments d'un véritable crime symbolique, une sorte de parricide. Et cela apparaît à mes yeux au niveau du traitement, et pour être précise, du mauvais traitement que le prophète a subi à la fin de sa vie. Il a été désobéi, malmené par son entourage, ses compagnons et les membres de sa famille. Et les deux éléments, à mon avis, les plus pathétiques, qui sont dignes d'être relevés, qui m'ont personnellement un peu bouleversée quand je faisais cette enquête, c'est que d'abord, il a été empêché de dicter son testament. Omar ibn al-Khattab, le futur deuxième calife, l'en a empêché en disant qu'il était en train de délirer. Et le deuxième moment, à mon avis, où on atteint des sommets de pathos, c'est que quand son cadavre a été abandonné et son enterrement tardif et nocturne, donc double infraction aux injonctions religieuses, puisque dans l'islam, il faut enterrer rapidement les morts, et le prophète lui-même bannissait les inhumations nocturnes. Donc c'était un peu, à mon avis, un peu fort de voir que le prophète a été inhumé quand son corps a commencé à se décomposer. Cela se trouve dans les ouvrages les plus orthodoxes du sunnisme, et l'enterrement qui a eu lieu dans la nuit, sans doute pour des raisons politiques, peut-être que l'enterrement a été secret, le temps que la question du califat soit réglée.
Nous aurons à revenir sur toutes ces considérations durant l'émission. J'ai entendu dans cette première réponse, dans vos propos, deux mots qui m'ont interpellé. C'est une fin de règne. De quel règne s'agit-il? Y a-t-il une royauté, ou c'est au sens figuré? Et puis vous avez parlé aussi de considérations d'ordre califal. Est-ce que la notion du califat était déjà à ce moment-là préfigurée, ou c'est simplement un exercice de style? D'abord, alors, quand vous parlez de fin de règne, parce que j'ai lu dans votre livre, avec un trait d'union, le prophète roi. Est-ce le cas dans votre enquête, ou c'est simplement là aussi une figure de style?
Non, c'est un prophète qui avait un visage multiforme. Il était à la fois, donc il avait ce pouvoir spirituel, le maître spirituel de toute une communauté. Il était aussi un législateur. C'était lui le chef de la communauté. Et aussi, c'était un homme comme un autre. Donc lui, c'est un personnage assez kaléidoscopique. Moi, le côté humain m'attire, me fascine plus, parce que ça le rend à l'histoire, et ça le sort un peu de la légende, de ce caractère un peu presque déshumanisé dans lequel la légende l'a emprisonné. Je parle de fin de règne pour de multiples raisons. Déjà parce que on retrouve dans la dernière phase de la vie du prophète les lieux communs connus dans toute l'histoire de la chute d'un homme puissant suite à une défaite militaire. C'est pour cela que mon récit commence avec l'évocation du combat contre Byzance. Je rappelle la bataille de Mo'ta, qui a été réellement une défaite cuisante pour les musulmans. Il y a eu beaucoup de morts, notamment un être cher, deux êtres chers à Mohammed, c'est-à-dire son cousin Ja'far, le frère de Ali ibn Abi Talib, et une autre personne très chère à son cœur, Zayd ibn al-Harith, son ex-fils adoptif. Et l'armée musulmane qui est allée à Mo'ta.
Vous dites ex-fils adoptif parce que pour X raisons, il ne le sera plus. C'est-à-dire, il ne sera plus son fils adoptif.
Non, la raison, elle est connue. Ce n'est pas une inconnue X. On sait qu'il a l'adoption.
X au pluriel. Voilà. On peut en parler aussi.
On peut en parler, oui. Mais ce n'est pas l'aspect qui rend le personnage de Mohammed antipathique, au loin de là. Je disais donc que la bataille de Mo'ta a eu un impact sur le moral des troupes, parce que jusque-là, la communauté musulmane pensait qu'ils étaient les soldats invincibles d'Allah. Et perdre une bataille d'une manière aussi cruelle face aux mécréants de Byzance a donné quand même a sérieusement entamé le prestige du prophète auprès de sa communauté. Ils se sont dit, voilà, mais finalement, on n'est pas si invincible que ça. Et donc là, Mohammed, peut-être pour effacer ce mauvais souvenir de la bataille de Mu'ta qui a eu lieu sans doute vers 629, il a retenté encore une expédition en direction de Byzance en 631. Donc mon récit commence avec cette bataille-là qui a été la dernière expédition du prophète en 631. Donc vers octobre, et j'ai envie de dire qu'en fait, si on peut faire le parallèle avec le parcours de Napoléon, Mu'ta ça a été la Bérézina et Tabouk a été un peu Waterloo, c'est-à-dire l'entreprise militaire de trop qui a achevé de montrer en fait la suprématie de l'islam, puisque ce crash test, j'ai envie de dire, devant l'armée chrétienne de Byzance a été un fiasco. Donc on rentre à Médine, le prophète a subi une tentative d'assassinat, preuve qu'il commençait à être contesté.
Sur le chemin du retour.
Sur le chemin du retour de Tabouk, où il n'y a pas eu de bataille, curieusement, mais il s'est retiré. On ne sait pas, on ne sait pas quelles sont les raisons de ce retrait. Il n'y a pas eu de combat contre Byzance. Donc, en arrivant à Médine, drame personnel, il perd son fils. Ibrahim, qu'il a eu avec sa concubine Maria al-Qabtia, Maria la Copte. Et en enterrant son fils, le prophète a comme le pressentiment que c'est à sa propre mort que Dieu le prépare. Il décide de partir en pèlerinage à la Mecque, c'est le pèlerinage de l'adieu. Dans certaines versions que j'ai trouvées dans les sources de la tradition, on dit que c'est le premier et le dernier qui n'a jamais fait de pèlerinage auparavant. Il a fait les petits pèlerinages, la Omra, mais le Hajj, c'était le premier et le dernier. Et là, il y a ce moment de retraite, d'annonce solennelle de la retraite dans le discours de l'adieu où il dit, voilà, ma mission c'est terminée. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les tensions politiques, parce qu'on savait maintenant, tout son entourage savait que la question de la succession allait se poser. Et donc, deuxième tentative d'assassinat sur le chemin du retour du pèlerinage de la Mecque, parce que visiblement, certains compagnons n'approuvaient pas la décision que le prophète était en train de prendre, celle de sans doute nommer Ali comme successeur. Mais il n'y a jamais eu réellement de fait avéré par rapport à cela. On sait que le prophète connaissait les noms de ceux qui voulaient le tuer, qu'il l'aurait confié à son compagnon Hudhayfa ibn al-Yamen, qui était en fait, contrairement à ce qu'on croit, l'ami intime du prophète. D'ailleurs, on le surnomme dans la tradition Sahab Sir, le confident.
Oui, le compagnon du secret,
voilà,
littéralement.
Voilà, voilà. Donc le dépositaire, en fait, du secret. Donc c'était son ami intime. Et on le voit d'ailleurs dans plusieurs scènes lui faire des confidences qu'il ne faisait pas, ni à Abou Bakr, ni à Omar ibn al-Khattab, qui sont présentés toujours dans la version officielle comme les amis inséparables du prophète. Donc tout cela a contribué à créer à Médine, durant les dernières semaines de la vie de Mohammed, une tension politique très forte. À cela, on peut ajouter aussi la propagation de ce qu'on appelle le mouvement des faux prophètes, notamment Moussaïlma et Talha. Il y avait même une prophétesse du nom de Sajar qui voulait absolument...
Qui aurait eu une relation avec le premier faux prophète ou l'imposteur Moussaïlma.
Absolument. Donc il y avait une... contrairement à l'image qu'on se fait, l'État ou l'embryon d'État créé par le prophète était commencé à craquer de partout, à la fois à cause des luttes internes dans sa cour, entre guillemets, c'est-à-dire ses compagnons et sa famille, qu'à l'échelle de toute l'Arabie, où un large mouvement de contestation commençait à se faire sentir. Et le prophète, d'ailleurs, s'en inquiétait tellement qu'il en faisait des cauchemars. Et il racontait ses cauchemars à Abou Bakr Siddiq, qui était connu pour ses talents d'exégète des rêves.
Il est interprète de l'univers onirique.
Voilà, voilà.
Alaoudi, tout de suite, là, je m'arrête sur ce que vous avez appelé un embryon d'État, ce que d'aucuns appellent aussi un proto-État. Est-ce qu'effectivement, on peut parler d'État, voire même au niveau embryonnaire, à ce moment-là, à Médine, alors que toutes les attributions d'un État n'y étaient pas encore.
C'est vrai, parce que ça ne correspondait pas déjà à l'organisation politique tribale de l'Arabie, évidemment. Mais je pense qu'il y avait quand même une organisation politique, c'est-à-dire que le prophète, on le voit souvent dans certaines situations, notamment prendre des décisions politiques. Il réunissait autour de lui les sahaba, notamment celui qui...
Les sahaba étant ses compagnons.
Ses compagnons, et notamment, il était très proche du chef des Khazraj, Saad ibn Ubaida, qu'il consultait souvent.
Est le clan puissant de Médine.
Des Ansars de Médine, les natifs de Médine. Les autres avaient toujours le statut des migrants. Ils étaient un peu des réfugiés. Ils ont gardé ce statut-là, d'ailleurs, jusqu'à l'avènement d'Abu Bakr Sadiq. D'ailleurs, pendant les pourparlers de la Saqifa des Banu Saïda.
Je me fais l'interprète auprès de nos auditeurs pour expliquer que Abu Bakr Sadiq étant le premier calife. Le premier calife ou futur premier calife.
Calife bien guidé, oui, parce qu'il y a d'autres califes ensuite qui sont, enfin, qui sont moins bien guidés, mais même Abu Bakr.
L'appellation calife bien guidé pour les quatre, et voire un cinquième, est venue bien plus tard.
Bien plus tard. De toute façon, ils ne s'appelaient pas les califes bien guidés.
Votre enquête est si dense et le sujet est si polymorphe, et vous en parlez avec beaucoup de volubilité, que le temps s'écoule et j'ai des scrupules à vous interrompre.
Il faut le faire pourtant.
Je vous en prie. Reprenons un peu les choses. Fixons le décor. On est à Médine. Yathrib qui deviendra Médine. Ça, c'est la coordonnée spatiale. Dans le temps, on est en 632 de l'ère commune, du compute des nations, comme on dit. Et on se rapproche de fin mai, début juin, puisque la date que vous retenez, enfin, en posant quelques questions, serait celle du mois de juin, du 8 juin 632, à quelques nuances près, un lundi, vous dites, alors qu'il sera enterré par la suite un mercredi. Le prophète, en dépit de sa volonté de laisser un testament, vous dites qu'il va mourir intestat, parce qu'il a été empêché. Et puis, je voudrais revenir sur cette notion de conjurer des hypocrites qui ont voulu l'assassiner, mais ils n'y sont pas parvenus. Comment pensez-vous qu'ils avaient essayé d'ailleurs de mettre fin à sa vie, et pourquoi ne les a-t-il pas dénoncés de son vivant ?
Je l'explique un peu dans le livre. Bien sûr, pour les chiites, les conjurés sont clairement identifiés. Il s'agit des califes usurpateurs, Abu Bakr, Omar, etc. Ceux qui vont ensuite, pour les chiites, empêcher Ali, le légitime, de devenir
Ali, cousin et gendre du prophète
qui devait naturellement succéder à l'autorité du prophète décédé. Donc là, pour les chiites, les choses sont assez claires. D'ailleurs, même la mort du prophète, il l'attribue volontiers à sa femme Aïcha qui l'aurait empoisonnée. Aïcha étant la fille d'Abu Bakr, le futur premier calife. Donc là, il y a une explication à ce silence du prophète, ou l'absence de réaction du prophète devant les conjurés qui ont tenté de l'assassiner. Et il le dit clairement, en confiant leur nom à Hudhayfa ibn al-Yamen, dont on parlait tout à l'heure, Hudhayfa lui suggère de les punir. Et il lui dit, je ne peux pas, j'ai peur qu'on dise que, après avoir éliminé ses ennemis, Muhammad commence à éliminer ses propres amis. Donc il a calculé politiquement ce geste-là, et il a dit, ça va vraiment atteindre sérieusement mon image, puisque si je ne suis pas arrivée à convaincre mes amis qui sont maintenant dans le rang de mes détracteurs, alors qu'en est-il de mes ennemis ? Donc je pense que c'était comme si Mohammed avait un génie politique, à mon avis, avéré. Je pense que c'est par calcul politique, c'est pas par impuissance, qu'il n'a pas voulu punir ses détracteurs, enfin ses conspirateurs, ses conjurés, et qu'il a préféré passer sous silence cette affaire-là, mais en étant clairement conscient qu'il pouvait récidiver. La preuve, quand il, le dimanche, c'est-à-dire la veille de sa mort, quand ils ont profité d'une syncope pour lui mettre un remède sur les lèvres. Le prophète était tellement suspicieux qu'il avait demandé à toutes les personnes présentes dans sa chambre de prendre sous ses yeux ce médicament, parce qu'il avait des doutes sur la nature de cette potion qu'on lui a posée sur ses lèvres, et ça en dit long sur la méfiance qui s'est installée entre le prophète et son entourage, et le fait qu'il ait demandé à ce que ses dernières volontés soient consignées par écrit montre qu'il n'avait pas vraiment confiance en son entourage pour respecter ses volontés s'il les avait exprimées simplement d'une manière orale.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous avons cette enquête passionnante de Hala Wardi, professeur des universités, membre associé au laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS. Et nous parlons effectivement des derniers jours du prophète Mohammed. Nous sommes donc au mois de juin 632. Vous parlez de cette méfiance. Il y a les deux idées principales, la notion de l'empoisonnement, mais il y a aussi cette idée d'une pleurésie qui serait une inflammation de la plèvre. Et donc, ce que vous dites a des implications considérables. Il voulait les Saints Testaments. Ça met une brèche sérieuse dans le dogme d'un prophète analphabète et illettré. Donc c'était lui qui allait écrire ce testament.
Il allait le dicter.
Ou du moins le dicter.
Du moins le dicter, oui, oui.
Non, mais le prophète illettré, c'est une construction après coup.
Absolument, absolument, qui a servi d'ailleurs à élaborer un autre dogme, celui du miracle du Coran, évidemment. Mais je pense que le prophète n'a jamais été analphabète, au contraire. C'est un homme plutôt lettré. Il a eu d'ailleurs accès à de nombreux textes. On le voit dans certaines scénettes décrites dans les livres de la tradition en train d'écrire lui-même, surtout le pacte d'Al-Hudaybiyah que j'évoque précisément dans le chapitre que je consacre au Testament. Et quand les mécréants, les païens de Quraysh ont refusé d'écrire dans le pacte de paix signé, l'armistice entre la Mecque et Médine, ils ont refusé de marquer le Mohammed messager d'Allah. Ali a refusé, et c'est le prophète qui lui-même a pris le calam et a écrit Mohammed ibn Abdallah.
Fils d'Abdallah.
Voilà.
Alors reprenons le récit, si vous voulez bien, Hala Wardi. Nous sommes arrêtés au dimanche 7 juin 632. Qu'est-ce qui va se passer le lundi 8?
Le lundi 8, il y a eu une scène absolument bouleversante. Le prophète se lève très tôt le matin avec... il était en pleine forme. Pourtant, il lui reste quelques heures à vivre. Il se lève au moment de la prière du matin Et comme sa chambre était vraiment attenante à la grande salle de prière de la mosquée de Médine, séparée par une sorte de rideau, il lève le rideau et il voit les musulmans en train de se préparer pour la prière du matin. Et eux, comme ils savaient qu'il était malade, ils étaient contents de le voir debout, parce qu'il ne quittait plus le lit depuis des semaines. À un moment donné, ils lui ont dit c'est toi qui vas diriger la prière. Et là, il ne parle pas, il leur sourit et il baisse le rideau. J'ai trouvé que la scène était vraiment théâtrale. Il est retourné à sa couche, il s'est allongé pour ne plus se lever puisqu'il a quitté ce monde, il a rendu son dernier souffle quelques heures après, en fin de matinée, sans doute vers midi, 13h. Il a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui a dit, voilà, Azraïl, l'ange de la mort est là et il attend ta permission pour entrer et il te demande de choisir entre tous les biens, tous les trésors de la terre et la compagnie de Dieu là-haut, et il dit Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la, et donc il a fait son choix. Donc,
que vous traduisez par, ou que nous traduisons par
le compagnon très haut.
Le compagnon très haut, le compagnon suprême, comme certains disent.
Voilà.
Halawardi, vous entrecoupez, si je puis dire, et vous comparez les sources, ce que nous appelons maintenant les sources chiites et les sources sunnites. Pourquoi est-ce que je dis maintenant ? Parce qu'en 100 ans, on ne parlait pas encore du sunnisme et du chiisme. Et là, ce que vous dites, c'est le résultat, c'est un peu la synthèse de ces sources qui parfois sont contradictoires. Il y a aussi une notion sur l'opulence réelle ou supposée du prophète, d'un autre côté, son indigence et son ascétisme, puisqu'il est mort ou il serait mort, endetté, sa cote de maille engagée.
Engagée, oui, c'est un juif.
Et donc, il préfère, si nous faisons crédit à cette idée que l'ange Gabriel est venu le faire choisir entre une sorte de vie éternelle et le fait de rejoindre Dieu, donc il préfère plutôt partir. Il y avait quelque chose qui m'a frappé à titre personnel, c'est que vous soulignez l'idée que nous étions dans un état d'esprit de fin de monde, donc avec quelque chose d'apocalyptique, et on est dans une vision eschatologique des faits. Donc les primo-musulmans et les compagnons du prophète étaient terrassés à l'idée que c'était la fin du monde.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il y avait au départ, quand il y a eu une annonce de sa mort, il y a eu une incrédulité, parce que d'abord, il y avait une partie des musulmans qui croyaient qu'il allait ressusciter au bout de 3 jours comme Jésus, ce qui d'ailleurs permettrait de donner une explication à son enterrement tardif, hein, déjà pour des raisons religieuses, alors qu'il y a peut-être des raisons politiques moins avouables, puisqu'il fallait régler d'abord la question de la succession avant d'annoncer officiellement la mort du prophète. D'ailleurs, on le fait même maintenant, l'annonce de la mort d'un chef d'État est toujours d'abord calculée, il faut choisir le bon moment pour faire l'annonce officielle. Donc, il y a cet aspect-là, que je ne suis pas, c'est pas une hypothèse que j'avance, moi-même, c'est dans le Coran. Si on prend, par exemple, hein, il y a toutes sortes de versets, mais si on prend le premier verset de la sourate, la lune se fend et la leur approche. Donc, il y avait une attente messianique liée à la croyance religieuse primitive en islam, et les gens n'ont pas voulu croire en sa mort parce qu'ils se sont dit, alors, soit il va ressusciter comme Jésus, soit il ne peut pas mourir parce qu'il est là pour nous conduire vers la Syrie, terre du jugement dernier. Donc, forcément, il y avait un désarroi total qui avait donc le déni de la mort du prophète était l'une des manifestations de ce désarroi, mais surtout l'implication plus tard sur la rédaction de la tradition, et c'est à ce moment-là qu'on assiste un siècle après la mort du prophète, puisqu'on a vu que le jugement, que l'apocalypse n'a pas eu lieu finalement, il fallait faire une révision historique générale, et c'est ce que Paul Casanova appelle dans son livre Mahomet et la fin du monde, un livre absolument remarquable, mais tombé dans l'oubli et qui a été publié au début du XXe siècle. Donc, dans cette, pour rattraper cette attente, cette attente déçue de l'Apocalypse, il fallait faire ce qu'on appelle la fraude pieuse, c'est-à-dire qu'il fallait tout réécrire en fonction de cette Apocalypse qui n'est jamais advenue. Et à ce moment-là, on voit le prophète de l'eschatologie, le prophète de la fin des temps, disparaître au profit d'un prophète réformateur, d'un prophète guerrier, etc., etc., conquérant. Et c'est à ce moment-là qu'on voit comment le personnage du prophète a été une sorte de pâte à modeler que les différents régimes politiques qui se sont succédés en terre d'islam ont façonné chacun à sa manière pour légitimer son pouvoir politique et pour fanatiser ses soldats, ce à quoi nous assistons encore de nos jours. Et moi, je voulais comprendre le contre-pied de cette récupération idéologique, dogmatique du prophète pour le montrer dans son humanité, pour le restituer à l'histoire. Et quand je le restitue à son humanité, je pense que je donne de lui une image humaine, d'ailleurs fortement décrite dans le Coran. Dieu dit à Mohammed, tu n'es qu'un mortel comme un autre. Et en même temps, ça nous permet aussi de contextualiser à chaque fois cette violence religieuse sacralisée, presque qui est devenue intemporelle, et à ce moment-là, la rendre à l'histoire pour qu'elle ne soit pas à chaque fois répétée comme une geste héroïque, épique, que chaque musulman, avec le jihad, doit absolument perpétuer jusqu'à la fin des temps. Donc il faut rompre, à mon avis, ce cycle-là de la répétition aveugle d'une tradition, en fait, qui a été écrite dans un contexte historique bien donné.
Voilà. Donc il faut à la fois dédogmatiser l'histoire, désacraliser la violence, ne pas penser qu'elle a été commanditée par la transcendance et qu'elle n'est pas garantie par le divin. D'autant plus, et ça vous le dites si bien, qu'il va y avoir une sorte de fabrique d'aphorismes, de sentences, de hadiths, etc. du prophète, bien plus tard, à peu près deux siècles,
Absolument.
Et donc tout ce genre littéraire dit le livre des expéditions, ces curricula vitae, cette hagiographie, cette légende dorée, dans laquelle il y a à la fois du mystérieux, de l'irrationnel, du merveilleux, de l'extraordinaire, et qui se mêle aussi avec des faits historiques, il faut y mettre un peu d'ordre.
Tout à fait.
Et c'est ce que vous essayez de faire.
Tout à fait.
Alors, étonnamment, et ça vous le pointez bien, on laisse la dépouille mortelle 3 jours par un temps caniculaire. On est au mois de juin à Médine, dans la péninsule arabique. Et ça, c'est parce qu'il y aurait eu un calcul, notamment d'Omar, le futur deuxième calife, parce qu'il y aurait eu un pacte, il y a eu un pacte entre lui et Abou Bakr pour se partager le pouvoir temporel.
Tout à fait. En fait, là aussi, on est sur le plan de l'hypothèse, et je vais consacrer d'ailleurs mon prochain livre à ces 3 jours, parce que je ne voulais pas...
Parce qu'ils sont cruciaux.
Décisifs. Ces 3 jours décisifs, l'histoire s'est jouée pendant, le tournant de l'histoire a été négocié pendant ces 3 jours. Et en fait, le véritable cerveau de l'histoire, c'est Abou Bakr Siddiq. Ce n'est pas Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab,
c'était... Et qui était, absent au moment de la mort du prophète. Il était dans les faubourgs de Médine.
Oui, dans une maison, dans sa résidence secondaire où, nous dit-on, il avait, qu'on appellerait aujourd'hui un coffre-fort rempli d'argent. Sans doute, il avait besoin de payer des gens. Parce que on sait que, là, je n'en parle pas dans ce livre ou dans le prochain, je vais en parler. Il y avait comme des milices déployées à Médine pendant ces 3 jours. Des milices payées par Abou Bakr pour notamment, et ça c'est le plus important, enfermer Fatima, Ali et Zubayr ibn al-Awwam.
Fatima étant
la fille du prophète, Ali son mari et aussi le cousin du prophète, et Zubayr ibn al-Awwam, le cousin du prophète. Donc, ils étaient enfermés. Est-ce que c'est eux qui se sont cachés parce qu'ils craignaient quelque chose, une agression physique qui va de toute façon advenir puisque Fatima, la fille du prophète, va être agressée physiquement et peut-être qu'elle est décédée de cette agression physique.
Et elle fait une fausse couche.
On dit qu'elle a été frappée sur le ventre par Omar ibn al-Khattab et qu'elle a eu une hémorragie dont elle ne s'est pas relevée. En tout cas, c'était la première opposante politique à Abou Bakr, ça c'est clair. Et sa disparition, comme celle de Saad ibn Obeid, dont on parlait tout à l'heure, et elles aussi auréolées de mystère. Et là aussi, on est vraiment pleinement dans l'assassinat politique. Donc, je disais que pendant ces 3 jours, il s'est passé quelque chose. Il fallait avoir le contrôle physiquement de la ville. C'est comme dans un coup d'État. Il y a des endroits stratégiques qu'il faut savoir contrôler. Il fallait retarder l'annonce du décès du prophète et les funérailles. Et il fallait surtout faire une action absolument, que je trouve extraordinaire, franchement. C'est d'aller négocier. Les Ansar de Médine, donc les natifs de Médine.
Les auxiliaires, les supporters.
Supporters, ceux qui ont accordé l'asile au prophète Mohammed pendant la Hijra, pendant l'immigration. Ils se sont réunis sous une tonnelle dans un verger un peu éloigné de Médine, le verger des Banu Saïd.
Le préau, la tonnelle.
C'est un endroit ombragé dans un verger. Et là, ils étaient réunis pour élire un chef. Comme dans la vieille tradition arabique, on choisit, quand un chef de la communauté disparaît, il y avait une forme embryonnaire là aussi d'élection démocratique.
On portait allégeance.
Voilà, pour faire la baya, l'allégeance, mais il fallait vraiment choisir, il y avait une sorte de méritocratie. Ce n'était pas l'hérédité, ça c'est sûr, il n'y avait pas d'hérédité par le sang. C'était quelque chose qu'on accordait par le consensus. Et quand Abou Bakr et Omar ont appris que les Ansar étaient réunis pour choisir Saad ibn Obeid, ils sont partis en courant et ils ont voulu négocier avec eux. Ils leur ont proposé un compromis politique. Nous sommes de Quraysh, donc la tribu du prophète qui avait un grand prestige dans toute l'Arabie. Donc c'est nous les émirs. Donc, je vais attirer votre attention qu'à ce moment-là, pendant les pourparlers de la Sarifa, le mot khilafa, califa, n'existait pas.
Oui.
Émir. Émir dans le sens de, au sens étymologique du terme, amara, celui qui donne les ordres.
Commandeur.
Voilà, oui. Voilà, le commandeur, le chef. Et ils leur ont
dit. Détenteur de l'ordre.
Voilà, celui qui donne les ordres. Voilà. Donc, ils leur ont dit, Abou Bakr et Omar, au Ansar, voilà. Faisant un peu la paix des braves, pas la peine de s'entretuer.
Les Ansar sont toujours
les Médinois. Et nous, nous sommes donc de Quraysh, on est les Mécois, on est de la tribu du prophète. Donc, on est les émirs, vous êtes les vizirs. C'est une sorte de partage du pouvoir. Et les Ansar disent, mais attendez, vous êtes chez nous, vous êtes que des immigrés. Et on peut vous renvoyer, pardonnez-moi la trivialité de la blague, on peut vous renvoyer à la Mecque dans le premier chameau charter, parce que ce n'est pas, vous n'êtes pas chez vous ici.
Nous sommes de souche.
Voilà, vous êtes des étrangers. Et à ce moment-là, la tension commence à monter. Et le Saad ibn Obeid, qui était aussi une tête politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il était toujours consulté par le prophète, leur a dit, écoutez, on ne veut pas vous faire des problèmes. On choisit un émir de chez vous et un émir de chez nous. Donc, il proposait une formule d'autorité bicéphale, autorité politique bicéphale.
Une hiérarchie.
Voilà. Et bien sûr, Abou Bakr et Omar n'étaient pas là pour négocier quoi que ce soit, en fait. Ils ont dit non. Et c'est à ce moment-là que les pourparlers sont devenus une véritable... ont tourné au pugilat. Et c'est Saad ibn Obeid à ce moment-là. Certaines versions disent qu'il a été tué ce jour-là. Et d'autres disent qu'il a été tué plus tard, bien plus tard, par les djinns. C'est des djinns qui étaient vraiment très engagés politiquement.
Et c'est toujours facile de se défausser sur les djinns.
Évidemment, surtout quand on a un crime politique non résolu, c'est commode de l'attribuer aux djinns puisqu'on ne peut pas les attraper. En tout cas, c'est cette pendant. Je ne veux pas en dire trop parce que ce sera l'objet de mon livre. Et c'est un huis clos absolument fascinant. Autant là, les derniers jours de Mohammed ont été un peu élaborés comme une sorte de récit de fin de règne. Les 3 jours où il y a eu ces pourparlers entre émigrants et auxiliaires, entre les Médinois et les Mécois, c'est un peu une pièce de théâtre, un huis clos, même je dirais une tragédie classique avec unité de temps, de lieu et d'action, et ce sont 3 jours décisifs. Moi, je les comparerais volontiers à la journée des dupes qui a eu lieu dans l'histoire de France. En tout cas, c'est extraordinaire de voir que finalement, on a affaire à des hommes politiques comme les autres. L'histoire de l'islam n'est pas différente de l'histoire de tous les grands événements de l'histoire où on voit des moments d'ascension, d'âge d'or et ensuite de décadence. Et c'est bien de retrouver cette banalité parce que c'est à travers cette banalité, cette banalisation de l'histoire qu'on arrive à avoir une emprise sur elle. Voilà.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Hala Wardi, professeur des universités, une intellectuelle tunisienne, membre associé au laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS. Et nous parlons aujourd'hui de votre enquête, cher Hala Wardi, intitulée Les derniers jours de Mohammed. Là, il n'est pas encore inhumé à ce stade du récit. Il y a eu donc ce règlement politique. Comment finalement les choses ont connu leur fin? Omar qui prend la main d'Abou Bakr et qui lui dit « Je te désigne, je t'élis, je te reconnais, je porte allégeance, je te fais allégeance que tu es le successeur du prophète », quelque chose comme ça.
Absolument, mais il faut voir qu'il y a eu quelques rebondissements juste avant. Il y avait trois personnes en fait qui étaient allées à la Sarifa des Banu Saïd, à la tonnelle des Banu Saïd pour négocier avec les Ansar de Médine. Il y a donc Abou Bakr, Omar et Abou Obaïda Ibn al-Jarrah. Un orientaliste belge les appelle le triumvirat. Quand ils sont arrivés pour commencer les pourparlers avec les Ansar, Abou Bakr a fait quelque chose d'assez surprenant. Il a pris la main d'Omar qui était à sa droite et la main d'Abou Obaïd Ibn al-Jarrah qui était à sa gauche et il a dit aux Ansar « Choisissez l'un de ces deux hommes ». Donc, il s'excluait lui-même du processus. Il ne voulait pas le califat. D'ailleurs, il dira plus tard, quand il sera à l'article de la mort, qu'il n'avait jamais dû accepter jouer ce rôle. À ce moment-là, peut-être que ça a été fait, c'était une simulation, on ne le saura jamais. Et c'est à ce moment-là qu'Omar dit non, de toute façon, c'est toi qui a la priorité. Et l'un des éléments sur lesquels Abou Bakr al-Siddiq a fondé un peu sa légitimité, c'est que le vendredi qui a précédé la mort du prophète, Mohammed aurait, mais je souligne vraiment le aurait,
conditionnel.
Voilà, il aurait demandé à Abou Bakr de le remplacer à la mosquée pour la prière collective du vendredi. Mais quand on regarde bien dans les sources sunnites, pourtant si favorables à Abou Bakr, cette délégation n'a jamais été aussi
claire
et établie. Et surtout que même pendant les pourparlers dont je vous parlais tout à l'heure, les Médinois ont dit « Ok, peut-être qu'il lui a donné cette charge de le remplacer comme pour diriger la prière, mais l'imama n'a rien à voir avec la fonction politique. » Donc eux, ils étaient plutôt dans une conception, disons, laïque, dans laquelle le pouvoir religieux devait être totalement distinct du pouvoir politique. Et c'est d'ailleurs l'un des points de divergence principaux entre sunnisme et chiisme. Et je pense que finalement, les deux courants ont une conception un peu subversive de cette succession au prophète, puisqu'elle fait comme si le prophète n'avait jamais disparu et qu'il fallait à chaque fois lui trouver un avatar. L'avatar choisi par les sunnites, c'est un avatar politique, le calife, qui avait même pas d'hérédité. D'ailleurs, il faut attendre les Omeyyades pour que le califat soit transmis de père en fils. Et d'un autre côté, il y a l'avatar choisi par le chiisme, qui est un avatar dynastique. Il faut être descendant du prophète, il faut avoir l'ADN du prophète. Donc, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, nous nous retrouvons devant une vacance du pouvoir que chacun des deux courants a essayé de combler à sa manière par deux conceptions différentes. Avec le sunnisme, on est plus proche d'un pouvoir politique séculier, alors que pour les chiites, le pouvoir religieux est clairement confondu avec le pouvoir politique. Mais en tout cas, il est vraiment assez singulier de voir que cette problématique du pouvoir religieux, pouvoir politique, s'est posée déjà le vendredi qui a précédé la mort du prophète.
Alors que la prophétie n'implique pas une charge de type dynastique dans tous les cas.
Absolument
et
pas.
Et a supposé qu'il eussent cumulé le principat et le pontificat, la partie spirituelle ou prophétique cesse par la mort physique du prophète et le reste, les hommes sont les hommes, ils se mettent d'accord pour régler leurs affaires entre eux.
Absolument, absolument.
C'est bien plus tard que, encore une fois, les catégories sunnites, chiites vont venir, et notamment après la bataille de Karbala en 680. Là, comment, finalement, il y a eu un assentiment à cette prise de pouvoir, finalement, par Abou Bakr. La légende dorée veut dire qu'il y a eu une sorte d'élection ou une pseudo-élection, mais finalement, il y a eu un coup de force et auquel ne souscrira pas Ali ni son épouse.
Absolument pas, et pas que Ali et son épouse, il y a eu même du côté de la Mecque, Abou Sofiane.
Le rallié tardif.
Voilà, le rallié tardif qui appartenait au clan des Banu Umayya, ceux qui vont plus tard fonder la dynastie des Omeyyades et son fils, le fameux Muawiya. On dit, parce qu'il faut dire que Abou Bakr et Omar n'appartenaient pas à des clans prestigieux de Quraysh. Et quand Abou Sofiane a appris que Abou Bakr Siddiq a été élu comme chef, il a dit, mais où va le monde? Ce sont, pour lui, ce sont
des usurpateurs.
Des usurpateurs, parce qu'il n'avait pas le prestige généalogique nécessaire pour devenir chef et pour succéder à Mohammed, qui était quand même de la tribu du clan des Banu Hashim, l'un des clans les plus prestigieux de la tribu de Quraysh. Mais il n'y avait pas que cette contestation interne à la fois du côté mécois et bien sûr de la famille du prophète, Fatima, notamment, et Ali, qui n'ont jamais voulu faire allégeance, et j'ai cité d'autres membres de la famille du prophète, comme son cousin Zubayr ibn al-Awam, qui a été d'ailleurs agressé physiquement dans un clash musclé avec Omar ibn al-Khattab. D'ailleurs, c'est parfois drôle les descriptions qu'on trouve dans les sources de la tradition des accrochages qu'il y avait entre les compagnons. On dirait une bagarre de chiffonniers. C'est vraiment... Enfin bref. Et il y avait à l'échelle de toute l'Arabie ce mouvement des faux prophètes qui avait déjà commencé du vivant de Mohammed. Alors là, l'ampleur de la contestation a été décuplée. Et c'est à ce moment-là que, ça révèle tout, je n'ai même pas besoin de vous décrire davantage, la première action politique du calife Abou Bakr a été de déclarer une guerre impitoyable qu'on appelle les guerres d'apostasie, Hurub al-Ridda, et qui était dirigée contre toutes les personnes en Arabie qui avaient contesté la légitimité d'Abou Bakr. Et comment d'ailleurs ils ont contesté cette légitimité? C'est pas parce qu'il y avait un règlement de compte personnel avec lui, mais parce qu'ils se sont dit, nous on a fait allégeance à Mohammed. Il n'est plus là, donc on peut se libérer de cet engagement. Et cet Abou Bakr Siddiq ne représente rien pour nous. Et surtout, ils ont refusé de lui envoyer les taxes de la zakat. Et c'est ça ce qu'il
voulait. Il voulait s'affranchir de ce qu'il considérait comme étant un impôt et non pas une aumône légale.
Voilà, parce qu'il voulait bien la donner au prophète Mohammed, puisqu'il y avait un pacte avec lui. Mais comme le Mohammed est mort, donc c'est qui cet Abou Bakr? Donc il y a eu un rejet de l'autorité l'autorité d'Abou Bakr. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces guerres d'apostasie. Je pense que le premier califat a été vraiment inauguré dans un bain de sang. Et c'est pour ça que l'islam est entré dans l'histoire par une très mauvaise porte. Et je suis vraiment ahuri de voir qu'aujourd'hui Daesh est en train de répéter les origines tragiques de cette histoire.
Oui, et gageons que l'esthétisation de la violence et la barbarie ainsi magnifiée par cette monstruosité idéologique et religieuse qu'est Daesh soit derrière nous. Simplement, il faut venir donc à ces temps premiers. D'aucuns disent qu'avec la mort physique du prophète, le temps mohammedien est fini. Il y a maintenant le fait islamique qui a repris. Nous nous approchons du terme de l'émission. Sinon, j'ai une dernière question d'ordre presque technique. Comment, encore une fois, et vous l'avez dit au début de l'émission, comment se fait-il que la dépouille mortelle est restée de lundi à mercredi, et de surcroît, elle a été inhumée nuitamment. Et Aïcha qui dit « Nous avons écouté les coups de pioche de nuit ».
Alors qu'il était censé avoir rendu son dernier souffle dans sa chambre. Là, vraiment, vous me posez une colle parce que je ne suis, comme dit Gérard Genette, qu'un témoin ultérieur. C'est vrai que j'ai fait un peu le travail d'une police scientifique dans ce livre, mais sauf que les empreintes que j'ai relevées, c'est pas des empreintes d'individus, puisque de toute façon, ils sont plus là, ils sont tous morts. Donc j'ai relevé des empreintes qui sont dans le texte. Et mon travail, ça a été un peu de réunir le puzzle, mais il y a beaucoup de pièces manquantes dans ce puzzle. Peut-être en prenant encore plus de distance, on peut voir quelles sont les parties qui sont restées vides, mais franchement, l'honnêteté intellectuelle, l'humilité scientifique m'interdisent d'être affirmatif. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux que récolter ces témoignages eux-mêmes tardifs que j'ai trouvés dans les sources de la tradition. Mmh. C'est vrai que je me suis approchée d'un noyau de vérité. Hein, par exemple, l'enterrement tardif, il y a un consensus. Il n'y a aucun livre de la tradition qui parle d'un enterrement du prophète le jour de son décès. Ils sont tous, il y a des variantes, il y a même ceux qui disent qu'il a été enterré le vendredi. Donc, mais Ibn Kathir, dans sa Sira, a fait une sorte de synthèse de toutes les versions et il dit que ce qui pourrait être plus plausible, c'est qu'on a un enterrement dans la nuit de mardi à mercredi ou dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est la version la plus plausible. Mais ce dont je suis à peu près certaine, c'est que quand il y a, dans les versions sunnites et chiites, une concordance, je sens qu'on n'est pas loin de la vérité. C'est pour que les adversaires se mettent d'accord sur une version de l'histoire, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas loin de la vérité. Et
d'autant plus que l'historiographie était à la fois lacunaire, parcellaire, tardive aussi, enfin avec une distance par rapport aux faits. Nous arrivons au terme, cette fois-ci, véritablement de l'émission. Merci beaucoup, Hala Wardi.
Merci à vous.
C'était Question d'Islam. Et vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références du livre et des livres aussi, et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Michel Coqui et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.